au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Bertrand Gallimard Flavigny.
Bonjour, je suis le bibliologue. Dumas et ses chasses. Alexandre Dumas, je vous rappelle ses dates, 1802-1870, fut un grand chasseur devant l'Éternel. Ce fut même une passion. Il ne se passait pas de voyage, tant en province qu'à l'étranger, sans partie de fusil et abattage d'animaux à poils et à plumes. Témoin, cette lettre, adressée le 21 juin 1833 à Alfred Tattet, un épicurien et compagnon de ribote d'Alfred de Musset. Alexandre Dumas déclinait notamment une invitation à dîner. « Mercredi prochain, je serai à la chasse. Ainsi, impossible, à mon grand regret d'aller dîner chez vous », écrivait-il. Dans leur récit de campagne et de chasse, Jérôme et Valentine Delmoral citent Dumas parmi les écrivains cynégétiques. Il prit parfois la chasse comme prétexte à des nouvelles ou des romans, disent-ils. Sa dernière chasse eut lieu à Naples, à Capodimonte, le 10 septembre 1860. Ses derniers coups de fusil furent tirés aux abords du château d'Ormesson, explique-t-il. Quant à ses premiers coups, ils datent de février 1815. Alexandre n'était plus tout à fait un enfant et encore loin d'être un adulte. Pour ses étrennes de 1806, son père, quelques semaines avant sa mort, lui avait offert un charmant fusil à coups dont la crosse était garnie d'un coussin de velours. Mais ce n'est pas avec cette arme que le jeune Dumas tira pour la première fois, car, faute de revenus, la mère d'Alexandre, la veuve de Thomas Alexandre David Lapeltrie, dit le général Dumas, fut contrainte de vendre tous les objets qui ne nous étaient pas strictement nécessaires. Tirant sur les perdrix rouges, comme les sangliers et même les loups, Dumas profitait à tous les instants de la chasse grâce à sa plume. Dans une autre lettre, adressée le 4 octobre 1820 à son ami Auguste Boussin, employé des contributions directes à Questembert, évoquant les femmes, il ne put s'empêcher de parler de ses parties de chasse. Il avait tué la veille un chevreuil, sa 130e pièce. « Cet exercice auquel je me suis un peu trop livré m'a rendu aussi gros que vous lorsque vous relevâtes de maladie et aussi blanc que mes ancêtres du Nouveau Monde. » Dumas était alors âgé de 17 ans. Ne nous étonnons pas qu'il prit tant de plaisir à prolonger ses chasses en composant bon nombre de textes cynégétiques parus dans des journaux comme La Presse ou dans des revues comme La Chasse illustrée, dont il fut l'un des fidèles collaborateurs. La lecture de ses récits de voyage, notamment Les impressions de voyage publiées par Guyot et Carpentier en 1834, celle consacrée à la Russie et à son circuit de Paris à Cadiz chez Deloye en 5 tomes, en 1847 et 1848, révèle des histoires de chasse. Certains de ces textes furent réunis dans Mes mémoires, chez Cadeau, en 11 tomes, de 1852 à 56. Or, d'Alexandrie, près de Gênes, le 21 mai 1860, l'écrivain dans l'attente de nouvelles de Garibaldi écrivit à Emma Monory Lacour, avec laquelle il entretenait une liaison. Il lui disait notamment: j'écris mes trois premières lettres de chasse à Léon Bertrand, pour ne pas y mettre d'affectation, puis ensuite à Anatole, une de temps en temps. Le personnage cité était le rédacteur du Journal des chasseurs, fondé en 1837. Qu'étaient devenues ces lettres? Claude Schopp, qui s'est fait une spécialité de découvrir des inédits de Dumas et de les publier, se lança dans l'enquête, consulta la collection du Journal des chasseurs et... rien. Il ne découvrit aucune trace de sa signature. Sachant que Gaspard de Cherville, collaborateur de Dumas et véritable auteur, il l'a avoué lui-même, du Lièvre de mon grand-père, chez Cadeau, 1857, tenait la rubrique cynégétique de la vie à la campagne, Claude Schopp consulta ses pages et découvrit qu'entre septembre 1861 et janvier 1864, dans ce numéro 44, 45 et 46, sous le titre générique de « Mes chasses », 14 articles étaient signés « Alex » avec un point Dumas. Chaque livraison est illustrée de 60 charmantes vignettes placées en tête et dans le corps des articles, explique-t-il dans la préface qu'il a donnée à la publication de Méchas, réalisant ainsi, près d'un siècle et demi plus tard, le projet de leur auteur. Oui, Dumas avait eu cette volonté de réunir ses articles en un volume chez Furne & Compagnie, qu'éditait La Vie à la campagne. Il en demanda même l'autorisation à son éditeur principal, Michel Lévy, qui le lui accorda, mais à condition que cette publication ne dure que 3 ans. L'affaire ne se fera pas, sans doute à cause d'un différend d'ordre financier, mais sans la sagacité de Claude Schopp, nous ne traduirions pas cette édition originale, de Méchas entre nos mains. Celle est importante pour la connaissance du père de Monte Cristo, car ses récits montrent, sans fin et sans détour, le personnage dans l'une de ses activités qui explique bien des traits de son caractère. Il y a de la gourmandise dans cette anthologie qui puise à pleine main dans l'autobiographie.